Chers amis, Hachem Alechem Tehyou, Leorechem Tovim Shanim Neimim. Nous sommes dans la paracha de Vayeshev. Dans cette paracha, il y a l'épisode malheureux, tragique, de la vente de Yosef. Donc, les frères de Yosef sont partis s'occuper des troupeaux. Et Yaakov demande à Yosef d'aller les rejoindre pour savoir comment cela se passe. Donc il envoie Yosef, Vaishalehu me'emek Chevron. Rachid dit, il l'a envoyé des profondeurs de Chevron. Rachid souligne que Chevron est sur une colline et non pas sur une plaine. Rachid souligne que me'etza amuka, le conseil profond de celui qui est enterré à Chevron de Avraham Avinu, auquel il a été dit que sa descendance sera étrangère et esclave dans un pays étranger. Donc en vérité, c'est la volonté divine qui va s'accomplir. Le projet divin est en marche. Donc Yosef part à la recherche de ses frères, il les retrouve à Shechem. Donc quand il le voit arriver, il se dit « Ine ba la halomot ala zeba ». Voilà ce rêveur, celui qui rêve de détenir le pouvoir. Donc nous avons vu que les rêves de Yosef sont une répétition de... Les frères pensent qu'il veut régner sur eux, il veut prendre le pouvoir, etc. Amalor timloch alenu, imashol timshol balu. Est-ce que tu crois que tu vas régner sur nous, ou bien tu vas nous gouverner, tu vas nous diriger? Donc il semble que Yosef veuille s'accaparer la royauté. Et ça, les frères ne peuvent pas l'accepter. Donc, ils pensent le tuer. Ils font un bédine et décrètent qu'il est passible de mort. Et comme il est dit dans le pasouk, « Vayomer ish elahiv, ine ba'ala halomot ala zeba, ve'ata lechou v'nargehu, v'lashlicheu be'ahad abborot. » Venez, on le tue, on le condamne à mort, on le tue, et on le jette dans un puits. Et on dira qu'une bête féroce l'a dévoré. Le pasouk dit, Vaishma Reuven, Reuven a entendu cela, Vayatsileu Meadam, il le sauve de leurs mains. Vayomer, lot nake nunafesh, on ne le touchera pas, on ne le frappera pas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vayomer Aleem, Reuven, Reuven leur dit, ne versez pas le sang, Ashnichu oto elaboraze asher bamidba. Jetez-le dans ce puits qui est dans le désert, Veyad Atishnichubo, mais vous, vous ne porterez pas sa main. La main sur lui. Pourquoi? Les manatil oto miyadam, afin de le sauver de leurs mains, la shivo et la vive, de le ramener à son père. Et plus tard, il est dit que veabor reken bomaim, donc le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Et justement, dans la Gemara qui traite du sujet de Chanouka, le Chacham dit. Rabbi Nathan Bar Manioumi, on ramène plusieurs enseignements de ce Chacham-là, et entre autres, qui concerne Hanouka, et entre autres, on ramène l'histoire du puits. Ve'aborek, d'Amar Rav Kahana, d'Arash Rav Nathan Bar Manioumi, Mishme de Rav Tanhou, Maïdirtiv, Ve'aborek en Bomaim. Il est dit que le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Mimashma Shenemar Ve'aborek, Eni Odea Shen Bomaim. Puisqu'il est dit qu'il est vide, je sais pertinemment qu'il n'y a pas d'eau. Et là, Matalmud Lomar en Bomaim, pourquoi il est dit vide, il n'y a pas d'eau, sans eau, Maim en Bo, Avane Hashim ve Akravim Yeshbo. Il n'y avait pas d'eau, c'est vrai, mais il y avait des serpents et des scorpions dans ce puits-là. Et cela, Réouven le sait pertinemment, il le voit. Alors, quelle intention a-t-il? Quelle différence y a-t-il s'il le tue directement ou il le jette dans un puits où il va se faire tuer par les serpents? Et le pasouk précise, les ma'an a-t-il automé Adam, les hachivo et la vive. Lui, il avait l'intention de le sauver et de le ramener à son père. C'est quoi la démarche de Réhouven? Comment comprendre cette démarche-là? C'est une démarche vraie. Rachaim HaKadosh ramène à Zohar. Et il dit la chose suivante. Il dit, un homme, de par son libre arbitre, il peut tuer quelqu'un, même si Akash Bokhu n'a pas fixé que cet homme-là doit mourir. De par son libre arbitre, le libre choix de ses actions, il peut ôter la vie à quelqu'un d'autre. même si HaKadosh Baruch Hu n'a pas fixé cela, même s'il n'y a pas un tribunal céleste qui s'est réuni et qui a dit que telle personne doit mourir, un homme peut tuer quelqu'un d'autre parce que lui, il a le libre arbitre. Alors que les bêtes ne peuvent tuer que, ne sont que les intermédiaires directs de HaKadosh Baruch Hu. Elles ne tuent, elles n'agissent contre un homme que s'il y a un décret sur cet homme. Et c'est cela que cette épreuve-là que Réhouven voulait comprendre. Vous voulez voir, est-ce que Béhémet, Yosef est passible de mort ou il n'est pas passible de mort? Alors il leur a dit, ne versez pas le sang. Jetez-le dans le puits, on va voir. Si Yosef est passible de mort, alors les serpents le tueront. S'il n'est pas passible de mort, alors il restera vivant. La question, c'est comme ça que Orahaim explique la démarche de Réhouven. La question qui se pose ici, comment comprendre qu'un homme, de par son libre arbitre, peut tuer quelqu'un alors que dans le ciel, il n'y a pas de décret sur cet homme-là? Est-ce que l'homme aurait plus de pouvoir qu'HaKadosh Baruch Hu? Comment comprendre cette notion-là? Alors que rien ne peut se faire sur terre sans qu'HaKadosh Baruch Hu, que le tribunal céleste ait fixé les choses. Donc de nombreux Chachamim discutent de cette problématique. Le Rahaim, c'est pas, le Chidouche n'est pas du Rahaim, mais en vérité, c'est déjà marqué dans le Zohar. Cette notion-là est déjà marquée dans le Zohar. Le Nian, il est comme ça. On peut expliquer ça de la manière suivante. Si un homme se retrouve devant une bête féroce, il sait que sa vie ne tient qu'à un fil. Il n'a pas de solution. Que va-t-il faire? Il va prier à Kadosh Baruch Hu de tout son être. Il va mettre tout son espoir, son espérance, son désespoir entre les mains de Dieu. Sa prière sera totale, totale vers Kadosh Baruch Hu. Il n'a aucun autre espoir que la délivrance qui vient du ciel. Si un homme se retrouve devant un brigand qui risque de le tuer, là c'est différent. Il va prier à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, sauve-moi des mains de ce brigand. Mais aussi, il va supplier, il va parler à cet homme-là. Il va lui dire, en fin de compte, tu es un être humain, je suis un père de famille, moi aussi j'ai des enfants, s'il te plaît, laisse-moi en vie. Et à partir du moment où il va, une partie de son espérance, de son espoir, de sa destinée, il va lui-même la mettre entre les mains de son agresseur. La prière vers Hachem n'est pas totale. Une partie de son espoir et de sa destinée, de sa vie, il va lui-même transmettre entre les mains de son agresseur la possibilité de le tuer parce que lui-même lui confère ce droit en lui disant, s'il te plaît, accorde-moi la grâce. S'il parlait Hachem devant le brigand comme devant le lion, à ce moment-là, la prière est totale et le brigand ne peut le tuer que si HaKadosh Baruch Hu l'a décidé. C'est l'homme qui confère à son agresseur la possibilité de le tuer. C'est ça le sens dans le Zohar. C'est ça ce que Réhouven va mettre à l'épreuve. Il met à l'épreuve Yosef. Et il dit, on va voir. Si les serpents le sauvent, ne le touchent pas, ça veut dire qu'il ne mérite pas la mort. Mais vous avez toujours la possibilité de le tuer. Pourquoi? Parce que Yosef va s'adresser à ses frères. Il va dire, vous êtes mes frères, nous sommes la chair de ma chair, nous avons le même père, moi aussi, je suis votre frère, s'il vous plaît, de grâce. En parlant ainsi à ses frères, Yosef leur aurait donné le pouvoir de le tuer. C'est l'homme qui donne sa propre destinée entre les mains de son agresseur. Et ça, c'est l'enseignement fondamental de cette notion que Réhouven a voulu les mains, Natsil Oto Miyadam, le sauver de leurs mains.
Léachivo et Laviv. Ça veut dire qu'il sait pertinemment, Réhouven, que Yosef ne sera pas touché par les serpents. Il le sait pertinemment. Cependant, malgré tout, Yosef aurait pu être tué par ses frères. Parce que lui, on se serait adressé à eux avec, en leur disant, je suis votre frère, ayez pitié de moi. C'est la démarche de la prière, en fait. Ici, il est mentionné, il est souligné la manière de prier. Souvent, quand quelqu'un est malade, il espère que le médecin pourra le guérir. Il espère une délivrance qui pourrait venir de la part d'un homme. Il espère des hommes. Il prie Dieu, mais il espère aussi des hommes. La prière n'est pas totale. La prière n'est pas totalement dirigée vers Hachem. Elle ne se fait pas à 100%. Une partie de son espoir se dirige vers son entourage, vers la main des hommes. C'est quand il n'y a plus d'espoir qui peut venir de chez les hommes que alors la prière est totale vis-à-vis d'Hachem. Quand l'homme prend conscience qu'en fait, il n'y a plus rien à espérer des hommes. Dans le cas d'un malade, par exemple, il n'y a plus rien à espérer des médecins. Les médecins disent, on ne peut plus rien faire pour toi. La science s'arrête là. Alors l'homme va se retourner vers Hachem et prier à 100%. Là, il a une chance que la prière soit agréée. Mais pour cela, il ne faut pas attendre la dernière minute. Il faut que, déjà au départ, ne rien espérer du médecin et espérer tout de Hachem. C'est ce que dit le verset. Al tiftehu ben divim, ben adam shein la teshua. Ne mettez pas votre espoir et votre confiance entre l'homme qui n'a pas la possibilité de vous donner. L'homme n'a pas cette possibilité. Mettez tout votre espoir et toute votre confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est le sens profond de la prière. Notre prière n'est pas que nous accédions, qu'un jour nous accorde des choses de manière naturelle. Nous prions que toute notre destinée soit selon un concept miraculeux qui ne tient pas compte de ce qui nous entoure, des lois, des règles de la société. C'est vrai que nous devons agir selon les règles de la société, faire ishtadlout, c'est vrai. Mais la délivrance, ce que nous espérons de recevoir, est en dehors de cela. C'est El Elyon, ça vient de plus haut. J'agis de manière naturelle. Mais la prière que j'adresse à Hachem, c'est que lui, ce qu'il me donne, ne tient pas compte du tout de ce que j'ai agi d'un point de vue matériel et naturel, ça vient de plus haut. C'est le sens de l'enseignement que le Zohar veut nous apprendre et que la démarche de Réhouven. Il est raison que nous sachions prier. Que nous sachions prier Hachem comme si nous étions devant un lion et il n'y a plus rien à espérer. Le seul espoir, c'est vers Hachem. Que nous mettions toute notre destinée, notre espoir, notre ferveur vers Hachem. Et c'est à ce moment-là que tout ce que nous espérons sera réussi. C'est à ce moment-là que Yosef sort vivant de son trou. Les serpents ne l'ont pas touché. La question qui se pose maintenant, pourquoi l'ont-ils vendu? Les frères avaient un doute. Est-ce que Yosef était Mechachef ou pas? Yosef, peut-être que Yosef connaissait la sorcellerie. Peut-être, c'est pas parce qu'il est sadique qu'il a été sauvé. Mais peut-être que parce qu'il connaissait les incantations de sorcellerie qui pouvaient dominer et maîtriser les serpents et les bêtes féroces. C'est pour ça qu'ils le vendent. Et ils le vendent parce que le Minagor, l'âme, c'est de vendre tout celui qui veut s'accaparer. Tout celui qui veut s'accaparer ce qui ne lui revient pas sera vendu comme esclave, comme Ham a voulu s'accaparer ce qui ne lui revient pas. Son fils a été maudit comme esclave. C'est pour ça que les frères ici vont vendre. Le Midrash dit « Karum inagoshel olam ». C'est ainsi l'habitude dans le monde. Tout celui qui veut s'accaparer ce qui revient aux autres, qui appartient aux autres, sera esclave parce que l'esclave ne possède rien de lui-même. Et sans le savoir, les frères ont ouvert ici la voie à Yosef pour grandir et monter et atteindre les sommets les plus hauts. Et de cette manière-là, ils ont accompli la volonté d'Hachem que Am Israël et Yaakov avaient nous descendre en Égypte avec honneur et gloire. Il y a raison que nous sachions sortir du puits. Nous sachions nous délivrer des serpents, des scorpions, De l'obscurité de ce puits profond dans lequel nous nous trouvons depuis 2000 ans, que la lumière jaillisse, que nous ayons une confiance totale, quelque chose qui nous donne la possibilité d'avoir une confiance totale, absolue, une fidélité envers lui et envers sa Torah, et qui nous illumine nos voies, et qui nous comble de toutes ces bénédictions. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.